bactéries, Mycobacterium tuberculosis, qui a infecté la personne. Et la personne présente les signes cliniques, donc tous les signes cliniques de la tuberculose. À cet instant-là, cette personne a la maladie de la tuberculose parce qu'elle fait la tuberculose acquise. Maintenant, lorsqu'on parle seulement de la tuberculose seule, la tuberculose en un seul regorge les deux phases, donc la phase latente et la phase active. La phase latente, c'est celle que la personne n'a pas de signe clinique, ne fait pas la maladie, elle n'est pas contagieuse, peut vivre longtemps avec sans pour autant qu'il puisse faire la maladie. Et l'OMS dit que rare, peut-être 10% seulement de la population atteinte de la tuberculose latente arrive à la tuberculose active. Par contre, la tuberculose active, elle, la personne présente des signes cliniques et fait déjà la maladie et elle est contagieuse. Donc, cette dernière peut transmettre la maladie à une autre personne. Donc, la différence, c'est ça. Quand on parle de la maladie tuberculeuse, c'est qu'on est en face de la tuberculose active. Mais quand on parle seulement de la tuberculose, cela regorge les deux types d'infections, tuberculose latente et la tuberculose active.
Ah, d'accord. La différence, elle est vraiment claire.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, quels sont les symptômes? Ça, c'est une question d'Alphonse Boaki. Quels sont les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose?
Eh bien, les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose sont le plus souvent. La personne a une toux, fait de la toux qui se prolonge pendant voire deux semaines à plus. Ça, c'est les premiers signes cliniques. Et l'autre, c'est la fièvre. Donc, vous avez une fièvre qui traîne avec souvent des sueurs nocturnes. Et il y a aussi des essoufflements, des douleurs au niveau de la poitrine, un état de fatigue, donc la sténose physique, une diminution d'appétit, une perte de poids. Voilà un peu les signes cliniques de la tuberculose.
Nous allons revenir sur quelles sont sur les différentes causes. Ça, c'est une question de Schultz Bekel. Il veut savoir quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser la tuberculose. Certainement, quelles sont les causes de la tuberculose pulmonaire, bien sûr, parce que là, nous sommes en train de parler de la tuberculose pulmonaire.
Les facteurs de risque souvent de la tuberculose, c'est d'abord la promiscuité. Hein, la promiscuité dans les habitats, la malnutrition, il y a les mauvaises conditions sanitaires, il y a aussi le surpeuplement. Et bien évidemment, un manque de suivi médical en général. Voilà un peu les facteurs de risque de la tuberculose.
Thomas Sontera veut savoir si un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire.
Oui, bien évidemment. Un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire si et seulement si il se retrouve dans un environnement où, comme je venais de citer, où il y a tous ces facteurs de risque là. Donc, s'il se retrouve dans un environnement de promiscuité ou bien une personne est atteinte déjà de la tuberculose, ce qu'on appelle par des cas contacts, il peut bien contracter la tuberculose. Les facteurs de risque comme la malnutrition, si la personne ne fume pas mais elle est malnutrie, ce sont des facteurs de risque qui peuvent le prédisposer à avoir la tuberculose, les mauvaises conditions sanitaires, la promiscuité, tout ça là, même si vous êtes non-fumeur, mais si vous vous retrouvez dans ce genre d'environnement, et bien évidemment, vous pouvez être exposé à contracter la tuberculose.
Alphonse Boaki a posé une question sur la tuberculose osseuse, mais il va devoir patienter lors de nos prochaines éditions. Nous reviendrons spécifiquement sur la tuberculose osseuse. Mais il veut savoir combien de temps peut s'écouler entre le temps où la personne a contracté peut-être le virus et le temps où la maladie se déclenche.
Oui, les temps d'incubation pendant la période où la personne a contracté la bactérie est souvent de deux semaines, voire plus. Donc, si aujourd'hui vous avez été en contact avec une personne tuberculeuse, il faut savoir que la tuberculose est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Donc, en parlant, en toussant, en étant tout le temps en contact avec une personne tuberculeuse, donc par ces postillons qui sont en l'air, et que vous êtes en contact avec ces conscients-là. Donc, le temps d'incubation peut être de 2 semaines et plus pour qu'on puisse faire la maladie. Cela aussi dépend du système immunitaire de la personne. Si la personne a un système immunitaire qui n'est pas immunodéprimé, donc qui n'est pas affaibli, donc il peut résister assez longtemps. Mais si déjà le système immunitaire de la personne est immunodéprimé, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a déjà l'infection du VIH, alors là, ben, le risque de développer la maladie sera encore un peu plus court, quoi, donc voire 2 semaines et plus.
Il faut aussi savoir si en dehors de la toux persistante, il y a d'autres symptômes qui peuvent révéler qu'une personne est atteinte de la tuberculose pulmonaire.
Oui, c'est en dehors de la toux persistante, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'abord la fièvre traînante avec des sueurs nocturnes, des douleurs au niveau de la poitrine, la perte de poids, l'asthénie physique et la perte d'appétit. C'est tous ces signes-là qui sont des signes cliniques de la tuberculose.
Et comment se fait le diagnostic? Est-ce qu'on peut le faire facilement à la maison ou il faut se rendre dans un centre hospitalier?
Et le diagnostic, il faut se rendre dans un centre hospitalier, se faire consulter par un médecin. Et le diagnostic dépend d'abord, premièrement, du type de tuberculose. Si c'est la tuberculose latente, donc il y a des tests immunologiques qui se font, à savoir les tests intradermiques et les tests rats. Et si c'est la tuberculose active, donc si la personne a déjà ces signes cliniques, eh bien, on fait la microscopie de traçage, on fait la culture des mycobactéries et des tests moléculaires pour pouvoir faire le diagnostic de la tuberculose.
Il y a Touré Vakaba, il dit, docteur, quelle explication donnerez-vous à un patient qui présente des signes, notamment une toux interminable, mais dont les examens biologiques ne sont pas affirmatifs?
Pour un patient qui présente une toux interminable, déjà une toux qui met beaucoup de temps, rend suspicieux. Ce que je le penserais, puisqu'il a dit que les examens
n'ont rien présenté.
Oui, les examens n'ont rien présenté. Ce que je lui demanderais, c'est de repartir chez voir le médecin, parce qu'il reste à savoir dans le diagnostic. Vous savez que la microscopie, c'est une qui n'est pas suffisamment sensible, donc qui détecte près de 43% seulement les bacilles tuberculeuses. Donc, il serait nécessaire pour cette personne de repartir voir son médecin et voir avec quel test, quel est le test qui a été utilisé pour pouvoir détecter la tuberculose et changer. Essayer un autre test, par exemple, si c'était la microscopie, faire la culture ou bien faire les tests moléculaires pour pouvoir avoir une autre confirmation si oui ou non la personne a la tuberculose ou n'a pas la tuberculose.
Jean-Claude de Moulaja nous écrit depuis Mujimaï en RDC. Il veut savoir si la tuberculose est héréditaire et si une mère qui porte la tuberculose peut donner naissance à un enfant non atteint ou à un enfant atteint de la même maladie.
Concernant l'hérédité de la tuberculose, puisque c'est une maladie qui est guérissable d'abord, je pense que la tuberculose, quand elle est bien traitée, quand on a bien suivi son traitement jusqu'à terme de son cure, et on est guéri, je ne pense pas qu'on puisse le transmettre. Alors, s'agissant de la mère qui est tuberculeuse, qui peut donner naissance à un enfant non atteint, cela est possible. Oui, une femme qui a la tuberculose peut donner naissance à un enfant qui n'a pas la tuberculose. Seulement si, pendant que la femme a la maladie de la tuberculose, elle est suivie, elle est sous traitement. Si elle est sous traitement, elle mettra au monde un enfant sain. Mais si elle n'est pas sous traitement et que cette tuberculose qui est là se complique, c'est-à-dire que devient une tuberculose qui se propage tout le long des autres organes, par exemple pour une femme enceinte, vous savez que tout passe par la voie hématogène, donc la voie sanguine. Et à travers le cordon ombilical, elle peut transmettre la tuberculose à l'enfant. Mais c'est des cas vraiment très rares.
Ok, je sais que nous reviendrons sur le vaccin dans notre émission de la semaine prochaine, quand nous allons parler du traitement et de la prévention aussi. Mais quelqu'un veut savoir, quelqu'un dit, j'ai été vacciné contre la tuberculose. Est-ce que je peux tout de même être contaminé encore ou bien être contaminé simplement?
D'accord. Si c'est une personne adulte, je dirais oui. Parce que le délai, le temps de l'immunité du vaccin BCG, vaccin Carmel-Guerin, est de 10 ans. Donc, lorsqu'on atteint déjà l'âge adulte, on n'a plus l'immunité. C'est-à-dire le vaccin qu'on a pris il y a 10 ans de cela ne nous protège plus. Bien évidemment, même si on a été vacciné dans l'enfance, dès qu'on devient adulte, oui, on peut être exposé à contracter la tuberculose.
Un autre auditeur dit, j'ai eu un contact avec une personne souffrant d'une tuberculose pulmonaire. Que dois-je faire maintenant?
Il faut se rendre dans un centre de santé, consulter un médecin pour qu'il puisse évaluer et évaluer le risque et voir dans quelle mesure vous faire des tests pour pouvoir savoir si vous avez contracté ou pas la tuberculose.
J'ai été contaminée. À quel moment pourrais-je mettre d'autres personnes en danger?
Vous avez été contaminée. Eh bien, le temps d'incubation, le temps que vous avez été contaminé. Si vous êtes en contact, comme j'ai dit, que c'était une maladie qui se transmet par voie aérienne, cela peut prendre 2 semaines, voire plus, pour que vous puissiez contaminer une autre personne. Donc, si cette personne a si cette personne est en contact permanent avec vous, parce que ça aussi c'est un fait, donc en 2 semaines, oui, vous pourriez lui transmettre la maladie. 2 semaines et plus, voire plus, pourrait transmettre la maladie. Mais lorsqu'on sait qu'on a la tuberculose, il vaut mieux s'éloigner, c'est-à-dire s'éloigner des proches. Très souvent, le médecin juge si ça nécessite une hospitalisation. Vous suivrez tout votre traitement au niveau de l'hôpital. Mais s'il juge aussi que vous pouvez aller suivre le traitement à la maison, très souvent, on isole le patient. On lui met dans une chambre où il est seul, on essaie de faire attention à tout ce qui est hygiène à la maison, pour ne pas, par exemple, peut-être manger dans la même assiette que la personne qui a la tuberculose. Donc on isole la personne pour éviter qu'il puisse aussi transmettre la maladie à ceux qui sont proches de lui. Donc, quand on a la tuberculose, on sait qu'on est sous traitement. Et bien, si on est à la maison, on fait attention. On évite trop de contacts avec les autres pour éviter de propager la maladie.
Ça rejoint certainement la question d'Alphonse Mouaki qui veut savoir si quelqu'un qui souffre de tuberculose infecte aussi ses vêtements ou bien des surfaces, comme on le voit avec le coronavirus.
Oui, la tuberculose pulmonaire, oui, mais il faut que ça soit des contacts très répétés. Mais ce n'est pas comme avec la COVID-19 pour toucher le tout, mais il faut que cette personne soit vraiment en contact. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a touché les habits d'une personne ayant la tuberculose, confirmer qu'on aura la tuberculose. Non, ce sont ces postillons-là. Il faut que tu sois en contact en discutant avec la personne, un contact très proche et répété. Là, oui, tu peux avoir la tuberculose. Mais ce n'est pas seulement au toucher des habits, parce que tu as touché les habits d'une personne ayant la tuberculose que tu peux avoir la maladie. Non.
À quel moment on parle de tuberculose pulmonaire contagieuse?
On parle de la tuberculose pulmonaire contagieuse lorsqu'il y a apparition des signes cliniques, lorsque cette tuberculose est active. Apparition des signes cliniques, lorsqu'il y a l'apparition des signes cliniques et que ça a été diagnostiqué, confirmé par les tests de laboratoire que la personne a la tuberculose, à cet instant-là, elle est contagieuse.
Merci. Stanislas Niwaka veut savoir quelles sont les personnes à risque, celles qui peuvent facilement être contaminées ou attraper la maladie.
Les personnes à risque qui peuvent contaminer, qui puissent se faire contaminer par la tuberculose sont souvent des enfants de moins de 5 ans, les personnes immunodéprimées, donc qui ont un système immunitaire affaibli, le cas des personnes vivant avec le VIH. Il y a aussi les personnes qui ont des antécédents médicaux, qui ont des maladies chroniques telles que le diabète, les cancers, la maladie rénale, et les personnes aussi souffrant de la malnutrition et des personnes qui consomment fortement l'alcool et la drogue. Ça, ce sont des personnes à risque.
Vous avez déjà répondu à la question de Thomas Sankara qui voulait savoir si un non-fumeur peut contracter la tuberculose. La dernière question que nous avons, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques, donc ils peuvent avoir la maladie, et puis, mais ils ne présentent pas des signes. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que les gens peuvent facilement se protéger de ces personnes-là? Ou bien, qu'est-ce que les gens peuvent faire, quoi?
L'OMS dit que seuls 10% des personnes infectées par la tuberculose deviendront malades ou feront de la tuberculose infectieuse à un moment donné de leur vie, 10%. Donc, ça veut dire que 90% de personnes peuvent vivre longtemps avec la tuberculose latente. C'est-à-dire la tuberculose, on est tous là, on a la tuberculose, mais on ne présente pas des signes cliniques. Et il peut arriver que notre système immunitaire lui-même puisse puisse éliminer cette infection à long terme. Donc, si on sent qu'on a des suspicions par rapport à ce qu'on ressent, la meilleure des choses à faire serait d'aller se faire consulter. Mais lorsqu'on a une tuberculose qui est latente, qu'il n'y a pas de signes cliniques, qu'on ne fait pas la maladie, il y a moins de risques vraiment qui ne peut pas contaminer. Parce que pour contaminer, il faut que tu aies des signes cliniques permettant de transmettre la maladie à quelqu'un.
Ah d'accord, donc s'il n'y a pas de signe clinique, il n'y a pas de transmission.
Il n'y a pas de contagion. Il y a l'infection qui est là, mais vous n'avez pas la maladie. Vous avez l'infection parce qu'il y a le bacille, c'est-à-dire le mycobactérium qui est là. Mais vous n'avez pas la maladie.
C'était notre entretien avec Mme Elion sur les modes de transmission de la tuberculose, les signes qui doivent alerter, ainsi que les personnes à risque. Madame Daré Elion est enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville en République du Congo. À présent, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la télémédecine, une autre manière de soigner mais à distance par le biais des technologies. On en parle. Un expert explique les avantages de la télémédecine et son potentiel dans les systèmes de santé en Afrique. Bonjour, Léonore Moudou en votre compagnie. Je suis ravie de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'exigence de distanciation sociale due au Covid-19 a fait qu'un plus grand nombre de consultations médicales sont faites par téléphone ou par vidéoconférence. La télémédecine, c'est de ça qu'il s'agit, est une approche médicale qui permet aux professionnels de la santé d'évaluer, de diagnostiquer et de traiter les patients à distance grâce à la technologie des télécommunications. Selon les experts, cette approche a un grand potentiel pour relever certains des défis auxquels sont confrontés aussi bien les pays développés que ceux en voie de développement, afin de fournir des services de santé accessibles, rentables et de haute qualité. Commençons tout de suite avec Michel Quinn, ici aux États-Unis, où la pandémie du nouveau coronavirus a accéléré l'utilisation de la télémédecine. Le récit est de Mohamed Oumfa.
Depuis le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, certains médecins et patients se rencontrent moins en personne et plus par téléphone et vidéo. L'objectif de la manœuvre est double. Protéger les patients en les gardant hors des salles d'urgence et des cabinets de médecins, réduire les hospitalisations afin que le système de santé ne soit débordé. Le docteur Edward Lee consulte maintenant plus de 20 patients par jour, de cette façon à Sacramento, en Californie.
Maintenant, avec le Covid-19, nous le voyons comme une nécessité. Les patients sont ainsi protégés.
La révolution de la télémédecine à laquelle certains médecins, patients et régulateurs ont résisté est en train de devenir une réalité. Selon ses défenseurs, elle permet d'accroître l'accès des gens aux soins médicaux en facilitant les visites, surtout pour de nombreux patients qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer. Pour les sceptiques, les consultations par appel vidéo ne devraient pas remplacer les visites en personne des patients au cours desquels un médecin peut effectuer les tests de diagnostic et avoir la meilleure idée de l'état de santé général d'une personne. Pour certains spécialistes, la télémédecine est nécessaire, même s'il existe des cas qui nécessitent la présence physique des patients.
Regarder une éruption cutanée, regarder une tache sur un bras, c'est parfait pour la télémédecine car nous avons les capacités vidéo. Ressentir une bosse, qu'elle soit douce ou dure, c'est un peu plus difficile, même si nous pouvons demander aux patients de décrire ce qu'ils ressentent. Si je dois faire une injection, si je dois faire une intervention mineure, je ne pourrais pas le faire par vidéo ou par téléphone. Et donc, dans les situations où il y a des besoins urgents, nous invitons le patient à nous voir.
We would bring the patient in to see us in the office.
Pour étendre les limites du faisable en télémédecine, certains hôpitaux utilisent des robots comme ceci afin qu'un expert à des centaines de kilomètres de distance puisse consulter les patients.
Nous avons celui-ci que nous utilisons pour les examens neurologiques beaucoup plus approfondis. Avec quelqu'un au chevet des patients, le neurologue contrôle la caméra ainsi que l'angle. Il peut vraiment voir beaucoup de choses.
La nécessité de distanciation physique change déjà la relation entre certains médecins et leurs patients. Conscients de l'importance grandissante de la télémédecine, les régulateurs américains ont récemment donné un coup de pouce à ce secteur émergent en facilitant la facturation des visites virtuelles pour les prestataires de soins de santé et en donnant le feu vert pour que l'utilisation de Skype et d'autres technologies n'enfreignent les lois sur la protection de la vie privée des patients.
Alors que l'utilisation de la télémédecine dans le monde a augmenté au cours de la dernière décennie, certaines personnes restent assez réticentes sur la question des consultations virtuelles ou par téléphone. Que pensez-vous de cette approche médicale? Votre pays l'a-t-elle adoptée ou non? Et faites-vous confiance à l'efficacité et la précision d'une consultation médicale virtuelle? Voici ce que certains d'entre vous ont dit sur Facebook. Alphonse Mbouaki écrit: la télémédecine réduirait le coût et éviterait des voyages médicaux très onéreux pour les pays, les entreprises et des particuliers. La télémédecine fait des résultats parce qu'il y a des patients téléconsultés et télésurveillés qui guérissent. James Adams répond: je me demande si cette approche est aussi ici au Congo. Yaya Mbawa est fondateur et PDG de Zensi, une plateforme de télémédecine qui offre ses services sur le continent africain. Il nous dit davantage, entre autres, sur les potentialités de la télémédecine dans l'amélioration des systèmes de santé en Afrique.
Il est vrai que à distance, il est impossible de faire un examen physique du patient. Donc, évidemment, pour ce genre de situation clinique, il est impossible d'utiliser la télémédecine puisque voilà, le patient nécessite de se faire examiner physiquement. Pour ce type de scénario, la télémédecine ne serait peut-être pas appropriée. Mais par contre, il y a des situations d'urgence qui ne nécessitent pas nécessairement une présence physique du patient à l'hôpital pour se faire examiner physiquement. Alors, dans ce cas de situation, par exemple, si vous avez un cas d'un enfant à la maison qui fait une crise en pleine de la nuit, et qui nécessite peut-être juste un conseil d'un médecin. Et voilà, donc c'est le genre de situation, par exemple, la fièvre ou alors le palu, il serait possible de traiter ce genre de situation à distance à travers la télémédecine. Il est évident que la télémédecine nécessite une infrastructure de communication pour pouvoir être effective. Évidemment, il faut également l'existence d'électricité pour pouvoir avoir une communication à distance. Donc, tout ça, c'est des potentiels défis qui ont toujours existé en Afrique, dans certaines régions.
Nous voici à la fin de notre programme « Votre santé, votre avenir ». Dans la première partie, nous avions reçu Mme Darrell Elion, enseignante de biologie moléculaire à la faculté des sciences de l'Université Marine David de Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi doctorante et mène des recherches sur la tuberculose à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Nous avons parlé des modes de transmission de la tuberculose, des signes qui doivent alerter et des personnes à risque. Dans la deuxième partie, Mounoumou nous a présenté Carnet de santé. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Elle vous a été présentée par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.